Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. La fièvre Ebola de retour en RDC. Deux cas de personnes affectées par le virus ont été confirmés à Bikoro dans la province de l'Équateur après analyse de quelques échantillons envoyés à Kinshasa. Le gouvernement congolais précise qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucun décès dû à la maladie. Kinshasa dit aussi s'organiser pour la riposte à cette 9e épidémie de fièvre hémorragique Ebola en RDC depuis 1976. La dernière avait été éradiquée il y a tout juste 10 mois. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Notre pays fait face à une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale, a annoncé Lambert Matuku, ministre du Travail qui assume l'intérim du ministre de la Santé Oli Ilunga en mission. Deux cas d'Ebola ont été identifiés à Bikoro dans la province de l'Équateur où 5 échantillons avaient été prélevés sur des cas suspects d'Ebola signalés depuis le 3 mai dernier. L'Institut National de Recherche Biologique en a décelé 2 positifs, mais aucun décès n'a été signalé parmi les personnes hospitalisées ou parmi le personnel de santé, précise le communiqué. Le ministère de la Santé a par ailleurs indiqué qu'une équipe d'experts du niveau central part de Kinshasa ce mercredi vers Bikoro avec un lot d'équipements appropriés pour superviser les investigations et l'organisation de la riposte sur le terrain. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Politique en RDC maintenant, les autorités congolaises ont accusé mardi l'opposant en exil Moïse Katumbi, candidat à la présidence, d'avoir voulu recruter des émissaires pour ouvrir des hostilités dans le nord-est du pays. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018 pour assurer le départ du président Joseph Kabila, toujours au pouvoir alors que son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. En RCA, nouvelle journée ville morte ce mercredi à l'appel de la société civile, une journée de protestation en réaction au regain de tensions à Bangui et à l'intérieur du pays. Pour les organisateurs, le gouvernement centrafricain et la MINUSCA, la mission onusienne sur place, ne font rien pour protéger la population, barrer la route aux ex-Séléka et garantir la paix. On écoute Paul Cressin. Beninga, porte-parole du GTSC, le groupe de travail de la société civile.
Ceci effectivement pour dénoncer et nous n'allons plus céder. Si le gouvernement ne nous donne pas des réponses fermes, nous allons continuer ces actions et c'est l'occasion ici pour nous de dire à la coalition Séléka de faire très attention. Si vous pensez que le gouvernement ne réagit pas, ça suffit pour vous de marcher sur Bangui, vous allez trouver sur vos chemins la population parce que nous allons organiser une défense populaire. Nous allons demander à tous les Centrafricains, nationalistes, patriotes de se lever comme un seul homme pour défendre la patrie.
Paul Cressin Beninga, porte-parole du GTSC à Bangui, en RCA. Au Cameroun, l'opposition s'organise en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. L'avocat anglophone Akere Muna s'est déclaré candidat à la présidence, alors que son pays connaît depuis un an une crise en zone anglophone. Akere Muna a fait des propositions pour la résolution de cette crise. Un extrait de ses propos pendant sa tournée à Washington.
Dans un premier temps, il faut changer le gouvernement, parce que le gouvernement a montré ses limites, il n'a pas de solution. La seule solution que le gouvernement trouve, c'est la répression. On en est où, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on a carrément 40 000 Camerounais réfugiés au Nigeria. On a un nombre quasiment égal de Camerounais qui sont déplacés à l'interne. Ça, c'est grave. Il faut un changement systémique assez profond qui prend en compte la jeunesse, parce que je vous dis carrément, le Cameroun n'est pas différent des autres pays africains, où 70% de la population est en dessous de 30 ans. On a quand même un président qui a mis 36 ans et qui a 85 ans. À cet âge-là, même si on est très capable, on a tendance à déléguer. Et je pense que ceux qui bénéficient de cette délégation ont pris le pays en otage.
Akere Muna, candidat à la présidence du Cameroun pendant sa tournée à Washington. Au Togo, l'opposition togolaise qui proteste contre le régime du président Faure Gnassingbé depuis plus de 7 mois a annoncé l'annulation de ses 2 jours de marche antigouvernementale censée démarrer ce mercredi à Lomé et dans plusieurs autres villes du pays. Le gouvernement togolais n'avait pas interdit ces manifestations, mais imposer des itinéraires que l'opposition refuse d'emprunter. Un déploiement des forces de sécurité était visible ce matin à plusieurs points de rassemblement où les manifestants souhaitant participer aux marches étaient censés se réunir. Rappelons que le dialogue inter-togolais, entamé depuis le 19 février sous l'égide du président ghanéen Nana Akufo-Addo, est actuellement au point mort. Après 3 séances de discussion, les 19 et 23 février et ensuite le 23 mars.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Madagascar, la commission électorale malgache a proposé mardi d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de l'année 2018. Et ce, pour sortir de la crise qui secoue la grande île depuis fin avril. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
Selon l'article 52 de la Constitution malgache, il est possible de tenir une élection anticipée, d'après Eri Rakotomanan, président de la Commission électorale nationale indépendante. Si cette solution convient à la fois au gouvernement et à l'opposition, la CENI propose déjà la date du 29 août 2018 pour le premier tour de la présidentielle. La commission électorale invite les parties prenantes à discuter vendredi de cette nouvelle option. En janvier, la CENI avait annoncé que les élections se tiendraient entre le 25 novembre et le 25 décembre. Il revenait au gouvernement de fixer une date précise. Si les élections anticipées ne font pas l'unanimité, la commission propose d'organiser les scrutins le 28 novembre ou les retarder au 29 mai 2019. L'opposition qui réclame la démission du président malgache a d'ores et déjà rejeté ces propositions.
Économie africaine, la croissance pour 2018 ne devrait pas dépasser 4% en Afrique subsaharienne. D'après le FMI, le Fonds monétaire international, les bonnes perspectives économiques mondiales, une hausse des prix des matières premières et un meilleur accès au marché international des capitaux favorisent cette légère reprise. Mais cette dernière reste insuffisante pour atteindre les objectifs de développement durable. Écoutons le directeur adjoint au département Afrique auprès du FMI, Dominique Desruel.
Nous avons par exemple au niveau des pays exportateurs de pétrole un choc très très important en 2014 dont les effets continuent à se faire sentir vu que ce choc était en termes relatifs peut-être le plus important que ces pays aient connu depuis le début des années 1970. Donc ces pays ont déjà fait des efforts importants au cours des deux dernières années pour assainir leurs finances publiques mais il leur reste des efforts à faire pour vraiment finir cet assainissement. D'un autre côté, nous avons d'autres pays comme certains pays d'Afrique de l'Ouest qui pour des raisons tout à fait raisonnables, pousser l'investissement public de manière à offrir des conditions de croissance meilleures, ce qui est en soi une bonne chose. Ceci dit, il faut évidemment que ce besoin d'investissement public soit compatible avec des finances publiques saines, et ceci tend à la recommandation de dire qu'il est important de continuer les efforts de mobilisation des ressources fiscales afin de pouvoir à la fois concilier ces efforts de dépenses d'investissement, mais aussi des dépenses sociales importantes et des finances publiques à moyen et long terme.
Dominique Desruel, directeur adjoint du département Afrique auprès du FMI. Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump a annoncé le retrait pur et simple des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions américaines contre Téhéran. Une position dure limitant les marges de manœuvre des Européens qui devraient poursuivre ce mercredi leur concertation pour sauver le compromis de 2015. Le point sur les réactions dans le monde à la décision du président Trump avec Jean-Roger Bion.
Ici aux États-Unis, l'ex-président démocrate Barack Obama est sorti de sa réserve avec un ton particulièrement ferme pour défendre le texte conclu sous son administration. C'est une grave erreur, a-t-il martelé, et en Iran, le président Hassan Rouhani a accusé son homologue américain de pratiquer, je cite, « une guerre psychologique ». Dans un communiqué commun, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May, qui s'étaient tous trois investis en vain pour tenter de convaincre Donald Trump de rester dans l'accord, se sont dit déterminés à assurer la mise en œuvre de ce texte en maintenant les bénéfices économiques au profit de la population iranienne. Les Européens devraient d'ailleurs poursuivre ce mercredi leur concertation pour sauver le compromis de 2015. Moscou a aussi fait part de sa profonde déception et de son extrême inquiétude. Dans la région, la Turquie a dit craindre de nouveaux conflits, tandis que la Syrie a condamné avec force l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord, affirmant sa totale solidarité avec Téhéran. En revanche, le Royaume sunnite d'Arabie saoudite, grand rival régional de l'Iran, chiite et Israël, soupçonné d'être le seul pays du Moyen-Orient à disposer d'un arsenal nucléaire, soutiennent totalement le président Donald Trump. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a d'ailleurs qualifié cette décision de courageuse.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.